Bonjour. Aujourd'hui, une émission spéciale sur le deuxième festival du livre à Beaupuy, près de Marmande, qui a eu lieu le mois dernier. Nous entendrons d'abord Christian Pesutti, maire de Beaupuy, qui nous brosse les caractéristiques de ce village en matière d'associations culturelles et sportives et les projets en cours. Puis nous entendrons Gaël et José de l'édition Inuit à Morlas, près de Pau. Ensuite, Patrick Marty du Sud Périgord, réalisateur de séries télévisées dont Louis La Brocante nous présente les quatre romans policiers liés aux quatre saisons, liés aussi au Périgord noir, blanc, vert et pourpre. Et enfin, Sophie Noé de Rambouillet nous présente les livres pour enfants. Côté jardin, l'histoire de la rose. Je suis à Beaupuy avec le maire de Beaupuy, Christian Pesutti, sur la deuxième édition du Salon du Livre.
Un salon qui bénéficie des expériences du premier, bien entendu. Donc il est de beaucoup plus développé, bien mieux organisé que le premier. On a cette année des auteurs de très belle qualité, comme l'an dernier d'ailleurs, hein, mais on a des auteurs de très belle qualité. L'organisation est très bien faite également.
Avec quand même beaucoup de bénévoles, c'est quand même
important. Oui.
Sur Beaupuy, il y a quelque chose qui fait partie de l'essence du village.
Alors, c'est vrai, hein, j'allais y venir à ça. Si ce salon il est de cette qualité-là aussi, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé pendant des mois et des mois avant. Et parce que je crois que ça se fait comme ça. Et donc, dès qu'ils auront terminé celui-là, ils commenceront déjà à travailler sur le suivant. Mais franchement, très très beau salon aujourd'hui, et il faut que ça continue, quoi, parce que la culture pour nous c'est important.
Alors ici on est comme dans un bastion de basket, puisque hier soir il y avait également un champion de France dans la même salle contre Mont-de-Marsan. On vise finalement, on est en haut du tableau, et hier je crois qu'ils ont gagné. Et derrière cette salle sert également, ben, pas qu'au sport, mais aussi à la culture.
Alors, oui, bien sûr, hier soir, il y avait un match important qui a été gagné, bien sûr. C'est très bien pour le club, qui est un club qui est porté par Marmande et par Beaupuy. Mais il n'y a pas que le basket, il y a aussi la culture. Et la plus belle prouesse, ce sont les bénévoles qui l'ont fait, puisque le match était terminé à 23h et à 24h15, le salon était installé. Et pour faire ça, il faut vraiment qu'il y ait des bénévoles, et vraiment très fort, très très fort, franchement. Et quand on voit aujourd'hui, on n'a pas l'impression qu'il y avait un match hier soir.
Oui, tout à fait. Alors après, on est au lieu des confituriades, on a toute une histoire ici.
Oui, comme vous le dites, alors Beaupuy s'appuie sur deux jambes, hein, qui est bien sûr le sport et la culture y compris culinaire, hein. On peut considérer que les confituriades, c'est de la culture culinaire. Ça existe déjà depuis longtemps, hein, puisque ça fait, pour les confituriades, ça fait plus de 10 ans, c'est mon prédécesseur Pascal qui avait eu cette idée-là, que nous poursuivons. Aujourd'hui, il y a une notoriété nationale, voire internationale, qui est en train de se constituer.
En plus, hein, labellisé par le ministère de la Culture.
C'est ça. Ça sera pour le mois d'août, hein, comme tous les ans, hein, le week-end d'après le 15 août. Mais bon, là, parlons de culture aujourd'hui et du Salon du Livre qui se fait tous les ans aussi et qui se fera l'année prochaine autour du 8 mai comme cette année. C'est un bel événement qui est maintenant porté par, bien sûr, la commune, mais également l'agglomération, porté par le département maintenant qui s'y met aussi. Donc ça y est, l'événement est reconnu et c'est une date qu'il faut marquer sur son agenda.
Voilà, à partir du moment où c'est qu'on a marqué finalement Beaupuy ce livre, hein. En plus, ce qui est remarquable, c'est qu'on a des panneaux à côté de la mairie là, qui témoignent des événements. Alors là, en ce moment, c'est les auteurs qu'on voit en photo, mais ça peut être autre chose, des confituriades, ça peut être finalement plein d'éléments qui font un peu la vie du village.
Alors ces panneaux, c'est vrai, ils sont là pour rythmer la vie du village, hein, tout à fait. Donc là, bien sûr, aujourd'hui, ce sont les auteurs parce que c'était Beaupuy ce livre, mais demain, ça sera la confiture qui sera sur ces panneaux-là. Après, ça sera les arts créatifs qui seront sur ces murs-là aussi, etc. C'est pour que On est traversé par une voie qui est très empruntée, qui est une départementale voie de déviation. Et donc, il y a beaucoup de véhicules qui passent là. Et donc, forcément, on y passe devant et c'est un excellent moyen de promotion. C'est pour ça qu'il y a ces panneaux.
Alors, dans le futur, ici, il y avait deux épiceries. Alors, c'est certain qu'on est proche de Marmande. Et donc, ces épiceries ont fermé. C'est redonner finalement du sens. Alors déjà, vous avez créé un marché paysan tous les vendredis. C'est de recréer finalement du commerce, du petit commerce de proximité.
Alors là, vous
c'est
êtes
un prochain défi. Ça.
Voilà. Alors c'est quelque chose. Là, vous savez, on est dans le temps long. Nous avons commencé il y a déjà maintenant 5 ans en refaisant notre PLU, en concentrant tous les terrains constructibles autour du village pour densifier le village et pour amener des habitants, parce que si vous créez du commerce et qu'il n'y a pas d'acheteur dans ce commerce, il va mourir. Donc on veut densifier le village, c'est-à-dire qu'on bouche les dents creuses, ce qu'on appelle les dents creuses. On est en train de travailler maintenant. La deuxième étape, c'est d'installer du commerce de proximité. Effectivement, nous sommes aujourd'hui en train de travailler avec un particulier privé. Donc nous sommes, nous, la commune, facilitateurs. Ce n'est pas l'argent communal qui est là-dedans. Mais pour créer quelque chose, une vraie offre de proximité sur le plan du bar, tabac, boulangerie, restauration rapide, etc., etc. Donc ça se fait. Et après, on aura très vite... on y travaillait déjà hier, ou encore hier plutôt, on va requalifier la traversée du village pour remettre l'habitant au milieu, c'est-à-dire qu'il y a toujours ces voitures qui vont passer, mais il faut que l'habitant puisse circuler, traverser la voie normalement, sans que les voitures roulent trop vite, etc., etc., et que le commerce vive. Et là, on est en train de requalifier cette traversée du village et on va y faire venir les habitants. Ça se fera, c'est pas nous qui allons faire ça tout seuls. On le fera en concertation avec les habitants, parce que si on réussit ça, eh bien, ils utiliseront le commerce de proximité. Voilà.
Tout à fait. D'autant que finalement, on est un lieu de passage. On a une cadence pendulaire matin, midi et soir. Et finalement, on est sur, on le voit avec Virazet à côté, pas très loin, où on a finalement ce commerce de proximité qui vit bien.
Voilà, alors c'est là, il y a un exemple qui est Virazeil, il y en a un autre, c'est Fourques-Pont-des-Sables,
oui,
qui vit aussi très bien comme ça. Mais voilà, c'est en gros ce style-là qu'on veut viser. Donc un aménagement qui fait que les véhicules passent, bien sûr, mais à vitesse réduite, ce qui fait que ça ne fait pas peur aux gens et que les commerces d'un côté et de l'autre de la voie peuvent vivre. Et donc suffisamment d'habitants pour pouvoir acheter dans le commerce et que le commerce vive de son activité, tout simplement.
Alors on a parlé culture, on a parlé basket, mais il n'y a pas que ça sur Beaupuis, il y a plein d'associations.
Alors, oui, je le disais tout à l'heure, là, quand on a fait l'inauguration donc, du salon, Beaupuis vit sur deux pieds à ce niveau-là, au niveau de ses associations, la culture et le sport. Hein, ce sont les deux pieds que nous avons. Alors, dans la culture, il y a ce que je vous disais, hein, donc le salon du livre, on a la bélothèque, on a tout Arzimut, on a également, je ne sais plus d'ailleurs, il me semble qu'il y en a un troisième ou un quatrième. Et dans le sport, nous avons le basket, le football et également la pétanque. Puisque vous avez toutes les personnes qui sont à la retraite, ils ont 200 licenciés là, qui sont au bord du lac.
C'est énorme.
Ouais, c'est énorme. Ouais. Voilà, on vit sur ces choses-là. L'intérêt que nous avons, c'est qu'on y vive bien dans ce village et que les gens vivent les uns avec les autres. C'est ça que nous poursuivons, le vivre ensemble. Ce qu'on appelle, nous, le vivre ensemble, c'était la marque de notre projet municipal. C'est la marque de notre projet municipal. C'est ce que nous avons proposé et c'est à ça qu'on s'attache à travailler pour essayer de réussir. Mais ce n'est pas facile.
Et de vivre quotidiennement, ça.
Voilà, c'est ça, exactement.
Et c'est un long travail d'Alain.
Voilà, je dis, j'espère qu'on réussira, mais c'est vraiment très dur aujourd'hui, puisque il faut pas oublier que les gens sont, malheureusement, ils ont vécu le Covid, ils étaient déjà un peu, mais ils sont devenus relativement individualistes. Oui. Donc il faut arriver à les faire aller les uns vers les autres, et ça, c'est pas gagné, quoi. Mais enfin, on va y travailler, on y croit, et si on y arrive, eh ben voilà, on aura réussi notre pari, quoi.
Alors surtout que les bénévoles, c'est quand même des gens du coin, et qui, eux, le vivre ensemble, ils y sont déjà.
Oui. Alors, le bénévolat, il faut quand même que je dise une chose, c'est vraiment quelque chose de très important.
Qui, avec le Covid, a diminué beaucoup.
C'est hein. ça, c'est très important. Et on le voit surtout, cette difficulté-là, on la voit dans l'âge des bénévoles. L'âge des bénévoles, c'est pas... La moyenne d'âge, elle est au-delà de 50 ans, c'est souvent des retraités. Donc, comment fait-on pour intéresser les jeunes à donner un peu de leur temps, pas beaucoup, mais un peu de leur temps? C'est un défi très important pour nous. Hier soir, il y avait, donc, comme vous le disiez tout à l'heure, le match de basket. Après, il y a une bodega derrière. Il y avait plein de jeunes qui étaient là. Mais ils viennent consommer.
Ils ne viennent pas. Consommateurs.
Voilà, ils ne viennent pas organiser.
Surtout qu'en plus, ils viennent que pour la bodega.
Oui, bon, mais ça, c'est déjà, c'est normal.
On en parlait ici. Il y avait dans cette salle, autrefois, il y avait des orchestres de renommée internationale. Puis après, ça a été système musique. Et puis, on le retrouve, le bodega. Donc, oui. Finalement, le temps passe, mais on retrouve c'est des effets de mode.
Alors, la bodega, c'est, on parlait du vivre ensemble tout à l'heure, c'est aussi ça. Parce que les gens, ils sont venus passer un moment. Ils ont vibré parce qu'ils ont vu un joli match, etc. etc. et puis, une victoire, donc voilà. Mais surtout, ils veulent se retrouver ensemble. Donc, c'est un moment de convivialité où tous ensemble. Et les jeunes en font partie. Il y a un nombre de jeunes qui sont là, qui ne sont même pas venus au match. Ils sont montés de Marmande après le match, à 23h. Là, ils sont montés, ou à minuit. Et ils sont venus boire une bière, danser, etc., etc. C'est pas cher, c'est accessible, etc., etc. Et puis, on passe un moment ensemble. Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut retrouver, quoi. Et c'est difficile de faire vivre ça. Parce que ça, c'est organisé avec des bénévoles qui ne sont pas des jeunes, qui sont des gens qui sont à la retraite. Et donc, toute la difficulté est là.
Et ça, c'est pas évident. Hein.
Et ça, c'est pas facile.
Oui. Très bien. Merci, monsieur le maire.
Je vous en prie.
Un an de plus que je me caille, ah, ah, je meurs de froid, ah. Un an de plus et je me taille, ouais, et je rêve de te voir. Les nuits sans toi, sans toi, moi j'espérais tout bas. Les nuits sans toi, sans foi, revenir sur mes pas. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas, si loin de moi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois loin de toi, t'es toujours là. Un an de plus et malgré moi, je reste loin de toi. Ah, ah. Un an de plus à user mes petits doigts, ouais, rien, rien que pour toi. Les nuits sans foi, sans toi, moi j'espérais tout bas. Les nuits sans toi, sans foi, revenir sur mes pas. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas, si loin de moi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois loin de toi, t'es toujours là. Toutes ces heures à te chercher, tête baissée, les yeux fermés, sur ma peau gravée à tout jamais. Toutes ces heures à te chercher, tête baissée, les yeux fermés, sur ma peau gravée à tout jamais. Plus le temps passe, plus je sens en moi ces choses-là qu'on ne se dit pas. Ouais. Plus j'avance et plus je sens en moi ce qu'est d'être loin de chez soi. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas, si loin de moi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, loin de toi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, je ne sais pas, si loin de moi, t'es toujours là. Ouais, la vie nous sépare mais je te vois, ouais, chaque fois plus proche de moi. Des heures, des jours, des mois, loin de toi, t'es toujours là. One in a na na, oh oh oh, one in a na na. One in a na na, oh oh oh, one in a na na. One in a na na, oh oh oh, one in a na na. One in a na na, oh oh oh.
Je suis au Salon du Livre à Beaupuy, deuxième édition. Beaupuy ce livre. Alors là, on voit souvent des écrivains, des romanciers, mais des éditeurs, on n'a pas trop l'habitude de les voir. Alors là, cette fois, j'ai éditeur, je crois, du côté de Pau, c'est ça ?
Absolument, nous sommes les éditions Inuit, donc Gaël et José. On est venu à l'initiative, enfin à l'invitation de l'association qui organise le salon et qui avait envie de mettre aussi en lumière le travail des éditeurs.
Alors c'est intéressant le travail d'éditeur. Alors un travail d'éditeur, ça consiste à quoi au juste ?
Ah oui, question. L'éditeur, c'est un peu un chef d'orchestre en fait, qui va rendre possible le livre en fait, l'objet livre. Donc voilà, il va accompagner parfois l'auteur ou en tout cas faire découvrir des textes et gérer toute la partie. Voilà, il va être à l'interface des différents acteurs, maquettistes, correcteurs, relecteurs, imprimeurs. Et c'est aussi celui qui prend les risques financiers pour rendre possible le livre. Voilà.
C'est vous qui assurez finalement les risques financiers. Alors ça veut dire que déjà, de ce côté-là, vous avez l'édition, date de combien de temps ? Vous êtes depuis combien de temps vous êtes à Pau ?
Ça fait depuis 1999, donc je vous laisse compter, un peu plus de 20 ans.
Plus de 20 ans. Et alors, comment vous prenez principalement des auteurs locaux ? Comment ça marche ?
Non, pas spécifiquement, mais on n'a rien contre les locaux. Voilà, en fait, c'est d'abord un coup de cœur sur un texte. Donc on a un certain nombre de manuscrits qui nous arrivent par la poste. Et voilà, on ne regarde absolument pas quel est le curriculum vitae de l'auteur, s'il a publié déjà, si c'est un primo-romancier, s'il habite en Outre-mer, en métropole, en province ou à la campagne, peu importe. Voilà, ce qui va être déterminant pour nous, c'est... la rencontre avec l'univers d'un auteur, l'histoire qu'il va nous raconter, la manière dont il va nous la raconter. Et voilà, on se dit en fait tout à fait modestement que nous, on est en quelque sorte le premier lecteur. Et s'il arrive, nous, à nous convaincre et à nous emballer et à nous emporter, eh bien, ça veut dire qu'il y a de quoi réfléchir pour que ça puisse profiter à d'autres lecteurs à notre suite.
Alors, ça veut dire que depuis plus de 20 ans, votre édition existe. Vous êtes basé à Pau même ou vous êtes basé où ?
On est à côté de Pau, à Morlas.
Morlas ?
Morlas, oui. C'est ça, depuis...
Et alors, ça veut dire que vous avez Pignon-sur-Rue d'abord ?
Pignon-sur-Rue, oui. On est installé avec voilà, des espaces bureaux, des entrepôts. On peut venir nous voir. On est là.
D'accord. Et là, ça veut dire que là, pour être visible, vous, la partie immergée de l'entreprise, c'est participer principalement à des salons ?
Pas nécessairement. En fait, on fait très peu de salons. On en a fait peut-être plus il y a quelques années, mais on n'en fait pas tant que ça. Et en fait, ce sont surtout les auteurs qu'on défend qui sont sur les salons, qui sont invités dans les médiathèques, dans les librairies, dans différentes structures où ils vont défendre leurs bouquins. Et le rôle des libraires est essentiel aussi pour faire ce rôle de passeur.
C'est ça, parce que finalement, vous êtes en lien avec quoi ? Les libraires ? Comment ça marche là ?
C'est ça. En fait, nous, on est l'un des nombreux maillons qui composent ce qu'on appelle la chaîne du livre, qui part de l'auteur, qui peut être tout seul dans son bureau, face à l'écritoire pour composer son œuvre. Voilà. Nous, on est le deuxième maillon. Et à notre suite, en fait, il y a tout un ensemble de professionnels du livre qui vont transmettre le livre vers le lecteur final. Donc, évidemment, le maquettiste, l'imprimeur, et puis ensuite les libraires, les bibliothécaires, les associations comme celle qui intervient à Beaupuy, qui s'appelle Voix de Garonne, qui participe à faire connaître les livres et les textes des auteurs contemporains. Les organisateurs de festivals et de salons. Voilà, c'est toute une chaîne. Voilà, nous, on se situe plutôt au niveau de l'amont. Et comme disait Gaël, on n'a pas vocation, nous, à apparaître en direct, parce que notre boulot, c'est de faire connaître l'auteur. C'est à lui de prendre la lumière, en quelque sorte.
Et vous accompagnez l'auteur dans sa démarche.
Voilà, on est là pour l'accompagner, l'encourager, le faire connaître.
Alors ça veut dire que là, quand vous imprimez vos différents bouquins, vous avez plusieurs imprimeries, comment ça marche ?
Alors on n'a pas, on n'est pas imprimeur hein, directement, non, on a, voilà, mais on va travailler avec des imprimeurs, oui bien sûr, donc on fait des devis, et en fonction voilà, des tarifs et puis aussi de la du projet, du type de fabrication nécessaire pour le livre en question, ben, on va travailler avec un imprimeur ou un autre. Mais,
Dans votre édition, quel est votre best-seller, celui qui a depuis 20 ans vous avez eu
Alors on a fait un grand, on a eu comment dire un petit, une sorte de petit miracle il y a quelques années qui ne doit pas qu'à notre talent et encore, oui. C'est qu'on a édité. Je vous le montre au micro, évidemment, ça, vous ne verrez rien, mais voilà, Rose Royale de Nicolas Mathieu. Nicolas Mathieu, c'est un auteur qui a reçu le prix Goncourt il y a 3 ans. Et en fait, avant qu'il ne reçoive le prix Goncourt, nous, on était déjà en cheville avec cet auteur dont on suivait l'évolution. Et donc, on avait en chantier avec lui un texte pour cette collection. Voilà, parce qu'on estimait que c'était un jeune écrivain qui avait beaucoup de talent, qui avait un chemin à faire et qu'il fallait le suivre, l'encourager. Et de fait, on a publié son premier livre après qu'il a reçu le prix Goncourt. Donc ça a été assez facilement un livre qui a été très repéré, très visible, et par les lecteurs, et par les journalistes, et par voilà, l'ensemble des professionnels du monde du livre.
Votre spécialité, c'est les polars.
Oui, on édite beaucoup de polars. C'est pas qu'on se... Comment dire ? C'est pas qu'on ne s'intéresse qu'au malheur, même si en littérature, il est quand même souvent question de malheur. Hein, comme on dit, l'amour n'a pas d'histoire. Mais c'est vrai qu'on a une prédilection pour ce qu'on appelle le noir en général. C'est pas forcément que du polar. Ça peut être de la littérature sociale qui parle de tout ce qui va... tout ce qui ne nous convient pas, tout ce qui nous met en colère dans nos sociétés.
C'est pas la bibliothèque rose ici, là.
Non, mais il y a de belles histoires d'amour malgré tout. Il y a des livres très drôles. On peut être, voilà, on peut raconter des choses, comment dire, on peut déplorer certains travers de nos sociétés avec beaucoup d'humour. On a des auteurs très talentueux qui savent le faire.
Donc finalement, il suffit de les repérer, c'est votre rôle.
Oui, c'est ça. Donc, on les repère ou c'est eux qui viennent vers nous ou elles. Et puis ensuite, on les suit, on les accompagne. Il y a des auteurs qui sont fidèles, il y a des auteurs voilà, qui sont avec nous le temps d'un premier roman. Et puis l'idée, c'est que quand même voilà, d'être là pour eux, pour les suivre et puis pour faire vivre les livres. Parce que le temps de la librairie n'est pas forcément le même temps, le même tempo pour un éditeur. Nous, voilà, on a 20 ans d'existence, on a des livres de fond qu'on continue de faire vivre et qui continuent de se vendre. Et un livre voilà, est fait pour la durée, ce qui n'est pas forcément le reflet de l'époque, mais un livre a besoin de temps pour exister. Voilà.
Alors pourquoi Inuit ?
Alors en fait, Inuit, c'est une petite astuce, c'est un petit jeu de mots. Au départ, notre dénomination exacte, c'était in octavo. Alors in octavo, je ne sais pas si vous voyez, en bibliophilie, on a des formats de livres, on parle du in quarto, du in octavo, du in douze. En fait, c'était le nombre de fois que l'imprimeur pliait une feuille imprimé en 70-100, hein, c'était des feuilles de dimension standard, il les pliait 4 fois, 8 fois, 12 fois, et ça donnait un format de livre. Et voilà, et nous c'était en référence donc au format in octavo. Et en fait, quand on a commencé à devenir un petit peu plus repéré, on va dire, de gens qui ne connaissent pas forcément grand-chose à l'imprimerie, en fait, on se faisait dénommer Inuit, parce que les gens lisaient Inuit et pas in octavo. Et donc, on se dit que ce serait bien plus simple de, voilà, de filer la métaphore humoristique et de garder ce petit clin d'œil.
Je crois que c'est un clin d'œil à un peuple du Nord.
Absolument, mais on est peut-être les éditeurs sont peut-être une espèce en voie de disparition aussi. Hein. Voilà.
Non, mais enfin bon, vous n'avez pas de. Vous travaillez sur à l'international.
Oui. C'est aussi des choses qu'on voit pas nécessairement quand on est un peu. Enfin, mais bien sûr, oui, on fait ce qu'on appelle des sessions de droit. Donc on a en fait une agence, enfin, ou des agents littéraires qui vont nous représenter et qui vont vendre les droits de nos livres à l'international, donc notamment Rose Royale qui a été traduit dans de nombreux pays et qui continue à être traduit. Et ça, c'est aussi un des aspects de notre métier qui est moins connu, mais qui est important aussi pour justement défendre nos textes. Et ça permet aussi de financer d'autres projets, donc c'est bien.
Crise dans le livre, on ne connaît pas ou il y a eu des moments difficiles ?
Si, je pense que... alors moi, je fais ce métier depuis à peu près 20 ans et je pense que me suis toujours sentie dans une situation de combat ou de résistance. Et je pense que les libraires indépendants peuvent en témoigner aussi. Ils ont un peu ce sentiment-là parce que les gens... lisent de moins en moins, bon c'est un secret pour personne, parce qu'ils s'intéressent aussi à d'autres formats culturels, de musique, de cinéma, de plein de choses. Et du coup, et puis on, voilà, dans le monde du livre, nous sommes nombreux éditeurs, nombreux auteurs à avoir envie de défendre des propos, des discours, des textes, des univers. Donc il faut trouver sa place dans ce contexte-là. Ce n'est pas toujours évident. Mais vous voyez, nous, ça fait 20 ans que ça dure. 20 ans que peut-être on vit la crise, mais qu'on y arrive. Donc, c'est que c'est possible.
Tout est possible.
Je ne sais pas si tout est possible. C'est à raison d'une mobilisation assez permanente. Mais je ne sais pas. C'est un métier qui suscite... Enfin, moi, il y a des textes que j'ai édités dont je suis très fière, en fait. Et chaque année, j'ai le sentiment que ces coups de cœur pour des textes, ça vient remobiliser, ça vient redonner du sens à un quotidien professionnel qui n'est pas toujours évident. Tant que le désir est là et tant que, quelque part, la fierté de défendre cette littérature-là existe, moi, je peux continuer. Voilà.
Et toi, t'en penses ?
Bien sûr, oui. Il y a un côté magique quand même. Après, il faut se battre tout le temps auprès des libraires qui sont sollicités aussi par des tas d'autres éditeurs ou représentants. Donc, il faut tout le temps rester vigilant. Et puis, il faut aussi bien accompagner les auteurs et qui sont tous différents. Donc, faut être sur le pont tout le temps, quoi.
Ça veut dire que des maisons d'édition, il y en a beaucoup ?
Alors, il y en a beaucoup de toutes les tailles. Après, le paysage éditorial français, et puis pas que français, hein, c'est de gros groupes qui s'absorbent les uns les autres et qui, avec des petits éditeurs indépendants nombreux, qui ne sont pas tous professionnalisés, mais certains qui le sont bien et qui sont bien organisés. Donc il y a quand même un paysage qui est à la fois varié, mais en même temps, il faut rester très attentif. Parce que y a beaucoup de monde, beaucoup de livres, et que il faut continuer à donner envie, en fait. Voilà.
C'est ça, susciter l'attention et donner envie. Merci.
Merci à vous.
À bientôt.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme debout. Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jetez pas la faute. Ne me fermez pas la porte. Oui, je vis de jour en jour, squat en squat, un troubadour. Si je chante, c'est pour qu'on me regarde, ne serait-ce qu'un petit bonjour. Je vous vois passer quand je suis assis, vous êtes debout pressé, j'apprécie. Un petit regard, un petit sourire, me prennent le temps, ne font que courir. Mais si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors.
Merci bien, prends la pièce. En ce moment c'est dur, je confesse. Enfin je vais m'en sortir, je l'atteste. Toujours avoir un toit, une adresse. Soucis de toi amour, c'est dur je stresse. Le moral n'est pas toujours bon, le temps presse. Mais bon comment faire, à part l'ivresse comme futur. De tes promesses en veux-tu. Voilà ma vie, je me suis pris des coups dans la tronche. Sois sûr que si je tombe par terre tout le monde passe. Mais personne ne bronche. Franchement, à part les gosses qui me regardent étrangement. Tout le monde trouve ça normal que je fasse la manche. M'en veuillez pas, mais parfois j'ai qu'une envie abandonnée. Si je m'endors, me réveillerai vous. Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous.
Priez pour que je m'en sorte. Priez pour que mieux je me porte. Ne me jete pas la faute. Ne me ferme pas la porte.
Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais comme vous. Malgré toutes mes galères, je reste un homme de vous. Si je m'endors, me réveillerez-vous? Il fait si froid dehors, le ressentez-vous? Il fut un temps où j'étais.
On a vu l'édition, maintenant on va arriver aux auteurs et il va se présenter.
Alors bonjour, je suis Patrick Marty et je suis originaire du sud du Périgord, né à Bergerac. Et...
Ah, c'est un voisin là.
Oui, oui, je viens en voisin, absolument. Voilà, et donc j'ai écrit deux romans policiers que je présente aujourd'hui au salon, qui racontent la rencontre de deux policiers bergeracois, donc au commissariat de Bergerac, dont l'un est un pur périgordin et l'autre vient d'être muté et il vient de Paris. Voilà, donc voilà pour le contexte. Il y a quatre livres en prévision, il y en a deux déjà décrits et qui vont chacun d'eux s'inspirer d'un Périgord, le Périgord noir, pourpre, blanc et vert en fonction des quatre saisons. Voilà.
Donc là on était en Périgord pourpre.
Là on est en Périgord pourpre avec une enquête qui se déroule pour partie sur le territoire d'Aimé et autour d'Aimé, donc franchement très 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 proche d'ici, puisque je sais pas, on doit être à vol d'oiseau à une vingtaine de kilomètres à peine.
Un pays très... il y a beaucoup d'anglais là.
Il y a beaucoup d'anglais, les plaisantins disent qu'on roule à gauche de mai à octobre, c'est vrai qu'il y a beaucoup
de... les terrains de foot sont transformés en terrains de cricket.
Mais ils sont très sympathiques, nos camarades anglais, c'est vrai qu'ils sont notamment à Aimé assez nombreux.
Oui,
c'est vrai.
Oui, ils ont suivi peut-être le Brexit. Enfin, bon.
Pour ceux qui ont pu rester et qui étaient attachés à leur vie dans le sud du Périgord, qui est quand même un pays de cocagne, hein, faut le dire, hein.
Oui.
On vit dans une belle région. C'est pas parce que j'y suis né et que je souffre de chauvinisme aigu, mais non, c'est vrai qu'on...
Non, mais Bergerac est magnifique.
C'est très beau.
C'est très, très beau.
Tout le Périgord pourpre, d'ailleurs, oui. Est magnifique. Là. Oui.
On met souvent en Périgord noir, on met en avant le triangle des Bermudas. Hein,
ça, oui, c'est
voilà,
ça.
Bon.
Oui.
Mais il y a plein de choses à découvrir.
Absolument, le sud du Périgord avec les jolies bastides, voilà. Et puis, moi j'habite à 5 km de Castionnès, non plus, c'est pas très 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 loin de Lot-et-Garonne, hein, donc voilà, c'est des jolies bastides où on peut découvrir pas mal de belles choses, voilà.
Alors donc, si je lis un petit peu le Château Pourpre,
oui.
Alors Château Pourpre, on est où juste là?
Alors le château pourpre, c'est un château que j'ai inventé, hein, je me suis inspiré de plusieurs bâtiments qui ressemblent.
Oui, parce que des châteaux, c'est pas ce qui manque.
C'est pas ce qui manque en Périgord.
Ouais, hein, oui, donc, surtout voilà. En plus, dans le coin, il y en a pas mal.
Ouais. Et donc, que j'ai nommé pourpre, voilà, parce que par référence à ce Périgord où il est ancré, et il est situé à Aimé. Voilà, je l'ai situé dans la petite périphérie d'Aimé. Et on retrouve dans ce récit un individu qui revient après une très 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 longue absence, et qui va devoir faire face à son passé, et un passé assez trouble. Donc c'est ce qu'on appelle en bon français un cold case, n'est-ce pas ? Où on va aller chercher dans le passé les raisons des crimes et délits qui peuvent se passer dans le présent parfois, et puis en connaître les raisons et les acteurs principaux. Voilà.
Alors par ailleurs, je vois que vous êtes réalisateur pour la télévision.
Oui, j'ai été. Ça fait un petit moment que j'ai pas. J'ai monté une maison d'édition depuis 2009, donc je me suis plutôt consacré à l'écriture et à l'édition de livres. Mais auparavant, effectivement, j'ai toute une première partie de vie professionnelle dédiée à l'audiovisuel et au cinéma, où j'ai été longtemps assistant à la mise en scène et puis réalisateur. Oui, pour la télévision, j'ai notamment fait. Quelques épisodes de Louis la Brocante que les Français aiment bien et connaissent bien avec Victor Lanoux. Voilà.
Victor Lanoux, oui. Tout à fait. Et alors là, on est sur le Château Pourpre, mais le deuxième, c'est La Mariée Nue.
Alors La Mariée Nue, en fait, est le premier.
Ah, voilà.
Voilà, de la série. Et il se passe, alors lui, l'action se déroule. Alors on commence toujours dans le Bergeracois, puisqu'il faut quand même que les enquêteurs soient saisis de l'enquête et que ça se déroule sur leur juridiction, on va dire. Et ensuite, l'enquête va les amener dans un lieu ou un autre, etc. Là, en l'occurrence, pour La Mariée Nue, on est allé, avec les enquêteurs, découvrir le Sarladais, etc. Donc le Périgord noir. Pour le Château Pourpre, que je présente aussi comme le deuxième, ça se situe de la même manière. Il y a, si vous voulez, un meurtre qui est situé à Bergerac ou tout proche de Bergerac, donc la police s'en saisit, et puis ensuite l'enquête va les amener à Aimé. Il en sera ainsi pareil pour le troisième et le quatrième. Je vais en faire quatre, je ne vais pas en faire plus que ça, mais quatre, ça me paraît assez bon.
Oui, le Périgord, il en faut au moins quatre.
Oui, il en faut au moins quatre pour les quatre Périgords et les quatre saisons, puisque chaque action se déroule dans une saison bien déterminée. La Mariée Nue se déroulait en été, le Château Pourpre à l'automne, le prochain, ce sera en hiver. Voilà.
Pourpre, les feuilles du Bergeracois
au
moins des vendanges.
Et les vendanges elles-mêmes, voilà, parce que je suis aussi grand amateur de vin et de vin de Bergerac. Voilà.
Parce qu'on a le CIVB, Conseil interprofessionnel des vins de Bergerac, qui est associé maintenant à Duras.
Absolument.
Vous avez à la fois des rouges et des blancs.
Ouais, oui,
et les Montbazillac.
Qui sont très très bons, très très bons. Les rouges et les blancs sont en Bergeracois, et puis même ici, ils sont très 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 bons. Là, il y a du très haut niveau. Voilà. Bah, écoutez, voilà mon travail pour ces deux policiers. Sinon, par ailleurs, je suis aussi scénariste de bande dessinée, donc je fais pas mal de choses pour la jeunesse. Et puis si vous me permettez une chose, je vais me faire un tout petit peu de publicité, si vous pouvez le passer à l'antenne, avec une association qui s'appelle Les Amis de la Brouette, dans le sud du Périgord, c'est à Saint-Aubin-de-Lanquet. Le dimanche 22 mai, à partir de 11h, on ouvre un café-librairie associatif dans une ancienne école. Voilà.
Ah, c'est intéressant, parce que là, ça veut dire qu'un café associatif... vous êtes passé où, là, ce café associatif ?
Alors, c'est un petit village qui se situe entre Bergerac et Issy-Jacques, vous voyez, sur cet axe-là, pas loin de Beaumont-du-Périgord. C'est un village qui s'appelle Saint-Aubin-de-Lanquet, à côté de la commune de Lanquet également. Voilà.
Il y a un magnifique château.
Magnifique château de Lanquet, tout à fait, on est à quelques kilomètres. Voilà.
Lanquet, si mes sens sont bons, c'est... Comment s'appelle le château inachevé, c'est quoi ?
Ah, je ne sais plus. D'ailleurs, ce château, d'ailleurs, quand j'étais assistant à la mise en scène, j'avais amené une équipe de cinéma dans ce château pour tourner.
C'est magnifique.
Ouais,
hein,
ouais. Tourner un épisode de Highlander, parce que j'étais assistant sur la série Highlander à l'époque. Ouais. Et c'est un château magnifique avec une bâtisse exceptionnelle et puis un point de vue magnifique. Sinon, ils avaient beaucoup aimé là. C'était un réalisateur américain ou canadien, je ne sais plus, qui faisait la série. C'était pas mal. Voilà.
Très bien, merci.
Merci à vous, merci beaucoup.
Alors, je suis toujours au Festival du Livre à Beaupuy avec Sophie Noël. Elle va se présenter, originaire d'où ?
Alors, bonjour, je suis Sophie Noël, je suis originaire de la région parisienne, dans les Yvelines, près de Rambouillet.
Ah, une forêt célèbre, Rambouillet.
Oui, une forêt célèbre, il y a la vallée de Chevreuse, il y a la forêt de Rambouillet, et puis c'est une très belle région, si proche de Paris, on est à la campagne.
Oui, en plus, on est à la campagne. Hein.
Oui.
C'est très agréable, notamment, c'est une forêt domaniale, forêt de Rambouillet, où on va trouver des cerfs, on va trouver tout un tas d'animaux qui sont extraordinaires. On s'est mis à l'écriture à main donnée parce qu'on avait marre d'être dans l'enseignement auprès des enfants, c'est ça ? Ou transmettre ?
Alors non, j'en avais pas marre d'être institutrice puisque c'est un métier que j'ai adoré. Mais c'était intéressant de changer aussi puisque moi je pense que le métier d'autrice de roman jeunesse, c'est un peu la continuité de mon métier de maîtresse d'école parce que c'est une autre façon de faire passer des valeurs importantes et puis de garder le contact avec les enfants. Donc voilà, c'est un vrai plaisir d'avoir changé. J'ai changé il y a 10 ans et je le regrette vraiment pas, même si j'ai adoré mon métier d'institutrice.
On est toujours dans un passage de témoin, finalement, puisque je vois passeur de savoir. Transmettre, c'est le goût de transmettre déjà.
C'est ça, c'est qu'en fait je ne peux pas oublier mon passé d'institutrice et il ressort forcément dans mes livres. Et effectivement, il y a un de mes romans qui s'appelle Les passeurs de savoir parce que je pense que transmettre aux générations futures, aux enfants, aux jeunes, aux adolescents aussi, c'est notre rôle. On a tellement de choses à leur apprendre. Eux aussi d'ailleurs ont des choses à nous apprendre. Mais j'ai gardé en moi cette fibre pédagogique sans en faire trop non plus parce qu'il faut aussi le plaisir d'écrire et le plaisir de lire, mais transmettre aussi des bonnes valeur, c'est important.
Alors, un autre bouquin, parce que assez prolifique, Les Pointes Noires à New York, toujours de Sophie Noël.
Alors, Les Pointes Noires, en fait, c'est un livre qui parle du racisme dans la danse classique, puisqu'on s'est rendu compte qu'avec mes filles, qu'il n'y avait pas de danseurs ou de danseuses noires qui étaient des étoiles, et ni même dans le ballet classique. Donc, on s'est posé la question de savoir pourquoi il n'y avait pas de cette diversité à l'Opéra de Paris. Et donc, moi, ça m'a mise en colère, et je me suis dit que j'allais écrire un livre là-dessus. Et effectivement, ça parle de danse, mais ça parle principalement du racisme dans la danse.
Oui, parce que finalement, il faut être bien blanc. Quoi.
Il faut être bien blanc. Et puis, il y a un mot qui est révélateur, c'est que les collants, les chaussons sont couleur chair, c'est-à-dire qu'ils sont roses, alors que la couleur chair des métis ou des noirs, c'est marron ou marron foncé. Donc,
alors, le lac des cygnes, dans les cygnes, il y a le cygne blanc, mais il y a le cygne noir.
Effectivement. Voilà, donc il y a de la diversité dans les ballets, donc ça devrait être aussi dans les danseurs et les danseuses.
Tout à fait. Alors donc, je crois que le fait d'avoir soulevé ce problème ça fait du remous.
Alors effectivement, je ne sais pas si c'est moi qui ai soulevé le problème. En tout cas, ça m'a paru très important d'en parler. Et parallèlement, effectivement, il y a des jeunes danseurs métis ou noirs qui ont commencé à soulever le problème de la diversité au sein de la danse classique. Et aussi, moi, ce qui m'importait en plus, c'est que les petites filles ou les petits garçons d'ailleurs noirs ou métis puissent avoir un modèle de danseur qui soit à leur image. C'est-à-dire noir de peau.
Michael Jackson.
Par exemple, mais Michael Jackson ne faisait pas de danse classique, même s'il en a peut-être fait.
Mais en plus, lui, justement, il avait ce problème de peau il cherchait.
Non, mais oui, ça c'est. Voilà, lui, j'ai l'impression, j'étais pas dans sa tête, mais qu'il n'assumait pas du tout sa couleur de peau. Hein,
oui, donc, voilà.
Ouais, quel dommage. Oui, quel dommage.
Bon, c'était un très bon danseur, mais sur un autre domaine. Donc Les Pointes Noires à New York. Plusieurs éditions.
Alors en fait, il y a plusieurs tomes, c'est-à-dire que le premier, c'est Les Pointes Noires. Au début, ça devait être le seul. Et puis en fait, il a eu beaucoup de succès. Donc mon éditrice m'a demandé de faire un deuxième tome qui s'appelle Les Pointes Noires à l'Opéra. Puis enfin, un troisième qui clôt cette histoire, l'histoire d'Ève qui est l'héroïne et qui s'appelle Les Pointes Noires à New York. C'est le dernier et c'est l'aboutissement en fait du rêve de cette jeune héroïne noire.
Donc depuis 10 ans... On s'est mis à l'écriture en soulevant finalement des problèmes qui existent, là, d'un problème de racisme ou finalement de passeur de savoir. Donc, on excelle dans ce métier-là.
Alors j'espère. Mais ce que j'aime, alors il y a deux types de romans que j'aime écrire. Ce sont les romans de société, donc qui parlent de racisme, de diversité, de différence, de solidarité, de respect de la nature, de l'environnement, parce que c'est un sujet qui m'est très cher aussi. Et puis j'aime bien aussi écrire du fantastique, de façon, et dans mes romans fantastiques, je parle aussi de thèmes et de valeurs qui sont importantes, mais je n'en parle pas de la même façon. Ces romans-là sont évidemment moins réalistes et permettent aussi de faire passer des valeurs aux enfants qui aiment davantage lire ce genre de romans plus fantastiques ou plus magiques.
Alors, ce qui est important, c'est que bon, on dit que de manière générale, on lit de moins en moins. Mais il y a quand même une tranche d'âge qui lit.
Alors effectivement, la tranche d'âge 9-13 ans est, je crois, celle qui lit le plus. Et
C'est la faute au prof, ça.
C'est grâce au prof. Et ce qu'il y a, moi je l'ai vu avec mes propres filles, c'est qu'après, à 13 ans, au collège et au lycée, on leur impose des livres et les enfants répondent tout le temps « Ouais, bon, on a déjà les livres du lycée ou du collège, on ne va pas s'en rajouter en plus. » Donc effectivement, c'est un peu dommage, mais voilà, c'est comme ça. Alors 9-13 ans, ils lisent vraiment bien, beaucoup, et je crois qu'il y a quand même encore pas mal de jeunes lecteurs. Hein, moi, j'en ai vu pas mal.
Oui, parce que finalement, ils sont ouverts à ça.
Ils sont ouverts à ça. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de lecteurs de manga. En même temps, le manga, c'est aussi de la lecture, donc très bien, des lecteurs de BD. Et moi, ce que je leur dis aussi, c'est que c'est important de varier les plaisirs et de lire aussi, bah, d'alterner romans, manga, BD et tout ce qui se lit, en fait.
Très bien. Merci, Sophie Noël.
Merci à vous.
Et voici Côté Jardin avec Patrick.
On est bien peu de choses et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie, heureuse et amoureuse, au rayon du soleil, me suis fermée la nuit, me suis réveillée vieille. Pourtant, j'étais très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs.
Vous avez compris, aujourd'hui nous allons parler de la rose. La rose est la fleur des rosiers, arbuste du genre Rosa de la famille des Rosacées, comprenant plus de 3300 espèces réparties en plus d'une centaine de genres. On trouve aussi bien des plantes herbacées, vivaces, que des arbustes ou des arbres. Parmi les espèces sauvages, on trouve le sorbier, l'aubépine, également le prunelier, l'églantier, qu'on appelle cynorhodon, dont on fait des confitures, la ronce commune, mais aussi les fraisiers, la benoîte, les potentilles, la reine des prés, la pimprenelle. Mais on connaît surtout les espèces cultivées qui font le bonheur de nos vergers, dont l'abricotier, le prunus armeniaca, l'amandier, le prunus dulcis, le cerisier, le prunus avius, le prunier, prunus domestica, également le pêcher, prunus persica, le poirier, pyrus communis, le pommier, malus domestica, sans compter le coin, le fraisier, le framboisier, la mûre, la nèfle. La rose des jardins se caractérise avant tout par la multiplication de ses pétales imbriqués qui lui donnent sa forme caractéristique. Appréciée pour sa beauté, célébrée depuis l'Antiquité par de nombreux poèmes et écrivains pour ses couleurs qui vont du blanc pur au pourpre foncé en passant par le jaune franc et toutes les nuances intermédiaires. Elle est aussi appréciée pour son parfum. Devenue la reine des fleurs, présente dans presque tous les jardins et presque tous les bouquets. C'est sans doute la fleur la plus cultivée au monde. Mais on oublie souvent que les rosiers sont aussi des plantes sauvages. Plus connues en Europe, c'est les glantiers, aux fleurs simples à 5 pétales, qui sont devenues à la mode par leur aspect plus naturel depuis quelques décennies sous le nom de roses botaniques. Les rosiers cultivés sont le résultat de plusieurs siècles de transformation, d'abord empiriques, puis dès la fin du XVIIIe siècle, méthodiques, en particulier par l'hybridation. Les variétés sont innombrables, on estime à plus de 3000 le nombre de cultivars disponibles actuellement dans le monde. Au niveau étymologique, le mot rose provient du XIIe siècle, du latin rosa rosae, qui désignait aussi bien la fleur que le rosier lui-même. Le terme grec ancien, rhodon, vient du persan rose. Il est tentant de rapprocher rose de rosée. Pourtant, cette rencontre, source d'inspiration, inépuisable pour les poètes, est fortuite en français. Une douzaine d'espèces et leurs taxons dérivés, c'est-à-dire les variétés et les formes, ont été utilisés pour créer la plupart des rosiers cultivés, à l'heure actuelle, généralement doubles, et avec de très nombreuses pétales. De plus en plus de formes naturelles sont cultivées dans les jardins. Ce sont les roses botaniques, dont la forme simple, semblable à l'églantine, et la rusticité s'accorde bien avec la tendance vers un jardin plus sauvage. Les roséistes modernes cherchent à exploiter la diversité du genre rosa pour introduire dans leur obtention des gènes particuliers résistants au froid et à certaines maladies. Les spécialistes distinguent généralement les roses anciennes des roses modernes. Les premières sont généralement les cultivars d'avant 1865, dont beaucoup ont été perdus. On trouve dans les roses anciennes des roses galliques, également des roses qu'on appelle roses pompons, des roses mousseux, plus connues sous le nom de rosiers damas. Et à partir de 1867, la création de premiers hybrides de thé, dérivés de roses importées de Chine, avec des cargaisons de thé, marque le début des roses modernes, qui deviendra par la suite les rosiers à grandes fleurs, les floribunda et les rosiers anglais. Mais comment en est-on arrivé là? Eh bien, les roses ont été cultivées d'abord en Chine et en Perse depuis plus de 5000 ans, par la suite en Grèce depuis l'âge de bronze. Hérodote a rapporté que le roi Midas, au VIe siècle avant Jésus-Christ, quand il était chassé de Lydie par les armées perses, a emporté ses roses à son exil en Macédoine. Pline l'Ancien, dans son Histoire naturelle, décrit 20 sortes de rosiers, nommés par le nom de leur lieu de provenance. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au IIe après Jésus-Christ, durant toute période de domination grecque puis latine, les roses ont circulé de Perse, puis en Angleterre, en Grèce, en Égypte. Au VIe siècle, les couvents cultivaient les roses et le roi Childebert Ier avait une roseraie, les roses de paradis, d'après l'évêque Fortuna, dans son domaine de Saint-Germain-des-Prés. Au VIIIe siècle, Charlemagne cite les roses parmi les plantes à cultiver. Thibaut IV, comte de Champagne et roi de Navarre, revient en 1240 d'une croisade qui ne lui avait pas permis d'atteindre les lieux saints, mais il a rapporté une rose, Rosa Gallica officinalis, qu'il a fait cultiver à Provins et qui a donné le nom de rose de Provins. Puis ce sont les rosiers de Damas qui sont rapportés des croisades. À la fin du XVIe siècle, une rose est importée de Perse en Europe. D'autre part, les rosiers d'Europe arrivent en Amérique du Nord. Jusque-là, les mutations et les hybridations sont spontanées. Il faut attendre le XVIIe siècle pour une mutation de la Rosa Caliga, puis apparaître les roses à 100 feuilles, puis donner les rosiers mousseux. En 1781, arrive en Europe la Rose chinensis, qui est de forme rouge. Ce ne sont pas des espèces sauvages, mais des roses déjà cultivées dans les jardins de Chine. Leur croisement avec les rosiers d'Europe va faire apparaître des centaines de roses nouvelles. C'est la duchesse de Portland qui obtient les premiers croisements avec un rosier de Chine rouge. Le rosier Portland donne son nom. En même temps, en Louisiane, le croisement d'un rosier musqué et d'un rosier de Chine donné par Louis-Claude Noisette est à l'origine du rosier Noisette. Par ailleurs, entre 1803 et 1814, Joséphine Beauharnais envoie des botanistes à travers le monde pour enrichir la collection de sa roseraie de la Malmaison. Elle rassemblera plus de 242 cultivars, dont 167 roses galliques. Malgré le blocus imposé par Napoléon, le pépiniériste John Kennedy traversera la Manche pour la fournir en roses. Au XIXe siècle, le croisement des rosiers de Chine, de Bourbon, Portland et Noisette permettra la création des rosiers modernes.
On est bien peu de choses, et mon ami la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore, je suis née, baptisée de rosée, je me suis épanouie. Très belle, oui, j'étais la plus belle des fleurs de ton jardin.
C'était Côté Jardin avec Patrick.
Voilà, l'émission s'achève sur le deuxième festival du livre à Beaupuypre de Marmande. Nous avons entendu Christian Bézuti, maire de Beaupuy, mais également Gaël et José de l'édition Inuit à Morlas près de Pau, Patrick Marty, Sud-Périgord, réalisateur de séries télévisées dont Louis la Brocante et de romans policiers, Sophie Noël de Rambouillet, présentant des livres pour enfants, et Côté Jardin, l'histoire de la rose. Je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.